La vie est un art.
Qu'est-ce que l'amour avec un grand A ? La langue française est bien pauvre sur ce sujet. Il n'existe qu'un seul mot, alors que d'autres langues telles que l'arabe littéraire en possèdent plus de 60. L'amour se dit différemment, si c'est l'amour par exemple de l'art, ou l'amour maternel, ou l'amour entre deux amoureux. Martin Stephens, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître un ouvrage intitulé « L'amour vrai ». Au seuil de l'autre, et à la lecture de votre livre, on perçoit une colère sourde en filigrane, celle d'un homme et peut-être aussi celle d'un père. Est-ce exact ?
Oui, c'est un livre qui parle de l'amour et qui pourtant fait droit, en effet, à une colère, et sans doute parce que l'amour, ça n'est pas d'abord des bons sentiments romantiques, l'amour est quelque chose d'exigeant, et quand on voit comment on défigure l'amour, notamment par la pornographie, eh bien, il y a quelque chose qui est révolté en moi. Je trouve qu'il y a un immense gâchis humain, notamment chez les jeunes garçons, mais pas seulement, quand l'accès à l'amour et notamment à la traduction de l'amour dans l'amour charnel se fait à travers des images pornographiques.
Alors, vous tutoyez quelquefois donc dans votre livre le lecteur. Mmh. Vous avez l'habitude d'être avec des jeunes parce que vous êtes prof de philo. Mmh. Et est-ce que c'est pour ça que vous vous adressez vraiment à ces jeunes qui sont aussi les jeunes que vous côtoyez au quotidien ?
Alors, je tutoie parfois le lecteur, je vous vois mes étudiants, parce que ce que je trouve très très important, je suis leur professeur de philosophie, ils sont en classe prépa littéraire, donc ils préparent un concours, et vraiment, c'est des années très très fortes. Et dans cette force de ce que l'on vit, je trouve très important de mettre la distance. Le vouvoiement, pour moi, c'est une forme de chasteté, ce que vient défigurer notre société de consommation, ce que vient défigurer la pornographie elle-même. C'est une chasteté qui permet d'aller même encore plus en profondeur avec l'autre, parce que son altérité, on la réserve, on la préserve. Et donc, en effet, alors là, le lecteur, je le tutoie, aussi parce qu'un livre, peut-être, a cet avantage d'entrer, c'est une parole de cœur à cœur, c'est une parole silencieuse aussi, donc c'est une parole qu'on rumine en soi, et ce tutoiement est aussi un peu le tutoiement, d'ailleurs, de l'alerte, de « rends-toi compte de ce qui se passe avec cette chose si banalisée qu'on nomme la pornographie ».
Mais c'est aussi peut-être le tutoiement d'un maître à ses disciples.
Ah, peut-être. Ou alors le tutoiement de l'impatience prophétique, de dire « mais ouvrez les yeux, voyez ». Ce qui me fascine, c'est cette idée qu'a inventée l'homme du divertissement. C'est très intéressant le divertissement, parce que le divertissement, c'est endormir, s'endormir soi-même, se divertir ou endormir les gens, mais pas en leur chantant une chanson douce, mais en les excitant. Hein, quand vous voyez même les grands romans de dystopie, Le meilleur des mondes, 1984, c'est par le jeu, l'excitation, le fun, et notamment par la sexualité d'ailleurs, qu'on va endormir les gens. Et précisément, c'est un livre qui veut nous réveiller, c'est-à-dire nous sortir de cette excitation dans laquelle nous mettent nos vies trop occupées et où l'on passe d'un travail angoissé à des loisirs débridés.
Mais je voudrais revenir sur cette colère. On a l'impression que on touche à quelque chose qui pour vous est sacré, l'amour, et que vous êtes en colère parce qu'on touche quelque chose d'extrêmement important.
Pour moi, la pornographie touche l'amour de multiples façons. Déjà parce que ça offre une image fausse d'un désir qui est profondément bon et vrai en nous, hein, le désir de se donner absolument, d'être tout à tous. Et dans la pornographie, il y a cette image-là. On voit des gens qui se donnent absolument les uns aux autres dans un entremêlement des corps. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Et ce qui est terrible, c'est que voilà, ce désir de se donner absolument, de s'engager absolument pour une cause ou pour partager la vie de quelqu'un, de se donner absolument dans les soins de plus petit que soi, eh bien ce désir-là, la pornographie en donne une traduction immédiate. Ce qu'elle nous propose, elle nous l'impose. Et à partir de là, ayant touché au cœur de l'homme, et même ayant touché le cœur de l'homme, ce qu'il y a en lui de plus profond, eh bien, la pornographie vient vraiment tuer ce qu'il y a en nous d'humain. Et elle le fait en plus à travers l'image, c'est-à-dire elle le fait en blessant notre regard. Or, qu'est-ce que c'est que le regard, si ce n'est la façon dont je vais à l'autre? Ce que je reçois de l'autre d'abord, c'est son image, c'est la façon dont l'autre s'approche de moi via le regard. Et donc, ce regard blessé par la pornographie fait que l'autre m'advient, mais désormais, la grille de lecture que j'aurai de sa présence sera surdéterminée par la pornographie.
Et ce regard blessé, comme vous dites, il est de plus en plus tôt ?
Bah oui, parce que c'est un peu un des points de départ de ce livre. Il y a 3 ans, mon fils avait 9 ans et il était déjà confronté donc en CM1 à la possibilité, via des tablettes, de regarder des films pornographiques en se posant la question si c'était une fatalité, si c'était quelque chose que les garçons devaient faire absolument, bon, ce que lui suggéraient des camarades de sa classe. Donc c'est de plus en plus tôt et vraiment, il y a même quelque chose de tout bête, hein, mais il y a quelque chose qui est encore interdit, hein, et il y a comme un seuil qui est franchi quand on va sur ce site-là, et donc on a l'impression que c'est le secret des adultes. Et donc on a l'impression que c'est ce que les adultes gardent secret, comme on pourrait garder secret quelque chose de précieux. Et donc ils vont accéder au secret des adultes, et qu'est-ce que c'est que le secret des adultes? C'est finalement qu'ils se perdent, hein. L'adulte est normalement quelqu'un de libre, qui est maître de sa vie, et non, il se perd dans son plaisir, il se perd dans son désir, et en plus, quand on y réfléchit, c'est peut-être pour l'enfant une image de son origine. L'acte charnel par quoi il est venu au monde, voilà ce que c'est. Et c'est vraiment absolument terrible, parce que déjà, je crois que l'origine, on n'a pas à la voir, on doit, comme on dit en philosophie, y participer, on doit la continuer, l'origine. Elle nous envoie au devant de notre vie, on ne doit pas se retourner sur elle, on doit, oui, y participer. Donc là, ça nous donne à voir notre origine et de quelle façon, et c'est pour ça que psychologiquement, c'est à mon avis tout à fait catastrophique.
Vous parlez de trauma, trauma voulant dire en grec blessure.
Oui, oui. Et c'est vrai que je me suis demandé si le Traum allemand, qui veut dire rêve, avait la même racine de... Bah, parfois, il y a des choses surprenantes. Hein. Je ne sais pas, the gift en anglais, qui est le don, c'est das gift en allemand, qui est le poison. Vous voyez, et alors, est-ce que je me suis dit, est-ce que c'est le même mot qui a donné Traum en allemand, qui veut dire rêver, et trauma, qui a donné traumatisme, la blessure. En fait, c'est deux mots différents, mais pour moi, c'est vraiment ça, le traumatisme pornographique. C'est une blessure qui se met à rêver en nous, c'est-à-dire à produire des images. C'est comme une blessure purulente, et sa purulence, c'est quoi? C'est de produire des images. Pour avoir discuté avec des lycéens que j'avais quand je travaillais en lycée technique avec une grande majorité de garçons, ils m'ont partagé l'enfer dans lequel ils étaient. Ils me disaient, mais de toute façon, le soir, ça ne s'arrête plus. Même si j'ai plus d'écran, vraiment l'expérience de l'obsession, c'est-à-dire de quelque chose qui, tout seul, en moi, eh bien, vit et grandit et grossit. Et comme me partageait, je me souviens, un étudiant qui parfois quittait le cours au moment de rentrer en classe pour aller regarder des images pornographiques puis ultra-violentes. Il me disait cette chose terrible, il me disait, mais je ne peux plus voir une femme sans la déshabiller, et pas que la déshabiller, parce que encore ça irait, mais sans même l'imaginer humiliée, etc.
Et ça peut amener à des choses terribles. On sait bien les viols, par exemple, en tournante, à plusieurs... Mais on sait aussi, malheureusement, aujourd'hui, que beaucoup d'enfants aussi sont blessés, ou de jeunes sont blessés aussi par ces actes-là. Des actes commis par des gens qui étaient addicts à la pornographie et qui sont passés à l'acte avec des personnes non consentantes.
Ah, mais tout à fait. Et alors, il y a ça, et il y a aussi le grand développement de la disparition du désir. Parce que aussi, ces jeunes-là, ou ces hommes-là, et parfois ces femmes-là, eh bien, en réalité, dans cette surstimulation du désir, désapprennent à patienter, désapprennent à écrire leur désir avec un autre. Et ce qui donne des gens qui n'ont tout simplement plus de désir. Et alors on pourrait dire, bah c'est bien, ils sont guéris, ils vont même plus voir de pornographie, il y a plus rien. Et enfin, en réalité, c'est absolument terrible. C'est absolument terrible parce que, et c'est là qu'on voit que notre désir doit naviguer entre deux eaux, entre sa satisfaction immédiate qui, au nom de la satisfaction du désir, va nier cet autre qui est venu susciter le désir. Bon, on voit bien que dans le viol, l'homme a la femme, mais il n'a la femme que comme objet, que comme chose. Donc ça, c'est un des risques. Et l'autre risque, c'est l'épuisement, l'exténuation du désir. On va tous devenir des gens sages parce qu'on aura désappris à aimer, parce qu'on aura aimé n'importe comment.
La vie est un art.
Martin Stephens, en tant que philosophe, j'ai envie de vous poser une question qui doit être difficile. C'est qu'est-ce que l'amour, l'amour vrai?
L'amour, c'est pas si difficile en philosophie. Je dirais que l'amour, c'est un mouvement. Aimer le chocolat, c'est être porté vers le chocolat. Et aimer sa voisine de palier, c'est être portée vers elle. Quand elle ouvre la porte, on va voir si elle est là. Pensons aux histoires d'amour qui se tissent dans les campus d'étudiants, que sais-je. Bon, donc c'est un mouvement accompagné d'un sentiment, et c'est un mouvement qui d'attachement, un sentiment d'attachement à l'autre, un mouvement qui me porte vers l'autre. Et l'amour, et c'est ce qui en fait un thème éminemment philosophique, c'est que l'amour est en lui-même paradoxal, parce qu'il y a en lui deux tendances, à la fois la possession de l'être aimer parce que je l'aime, et à la fois sa dépossession. C'est-à-dire que aimer le chocolat, évidemment, c'est manger la tablette, et le chocolat a disparu comme chocolat, il a été assimilé par moi, mais aimer mon enfant, c'est pas le manger, même si on dit parfois « je veux te dévorer ». Bon, et donc, on n'a que l'amour pour guérir l'amour de cette tendance à la possession, tendance d'ailleurs qui n'est pas absolument mauvaise. Mon enfant, il faut d'abord que je proclame que c'est mon enfant. Ma femme, il faut que je prenne femme et que je dise « je te veux comme ma femme ». Mais évidemment, si on en reste là, eh bien, on va passer à côté de son enfant, comme histoire qu'on va écrire avec un nouvel être humain, on va passer à côté de sa femme puisqu'on va les posséder. Et donc l'amour, c'est aussi en même temps dire « tu es mon enfant et pourtant tu es plus que mon enfant. Tu es aussi cet enfant qui a sa vie. Tu es ma femme et pourtant, il ne faut pas que j'oublie que tu es aussi cet être humain libre. Et en reconnaissant ta liberté, je reconnais que l'amour doit souffrir la distance, doit accepter que l'autre soit un autre pour que l'on puisse toujours se rejoindre. »
Le titre de votre livre, c'est « L'amour vrai » et en sous-titre « Au seuil de l'autre ».
Oui, et c'est presque un titre qui vient se contredire, parce que l'amour vrai, c'est en réalité l'amour fou. Nous sommes faits pour un amour absolument fou, et c'est vrai que je me méfie même de toutes les sagesses qui veulent nous rendre trop sages. Il y a vraiment un désir extraordinaire qui habite le cœur de l'homme, or qui est responsable de plein de catastrophes, de l'amour passionnel, etc., mais qui est responsable au fond de... Ça fait de nous des animaux littéraires. On a des histoires à raconter parce que il y a cet amour un peu trop grand pour nous qui nous habite. Le monde est trop aimable pour que nous soyons devant lui indifférents. Ça, c'est l'amour vrai. Mais pourtant, cet amour, on ne peut le vivre que si on apprend à rester au seuil de l'autre. C'est-à-dire, cet amour est si fort que s'il n'y prend garde, il va préférer sa propre satisfaction à l'être qu'il aime. C'est-à-dire, on va prendre cet exemple, l'homme doit dire à la femme « je te veux », mais il doit ajouter « à condition que tu me veuilles ». Sinon, je vais t'avoir, toi, mais sans toi. Je vais t'avoir comme ma chose. L'homme qui aime ardemment une femme et qui, à cause de cela, la séquestre, eh bien, il a la satisfaction de son désir, mais sans celle qui pourtant a suscité ce désir.
Vous venez d'avoir un petit quatrième, un petit Benoît. Bientôt, il va falloir lui expliquer la vie. Alors, peut-être pas tout de suite, mais si vous vouliez parler à des enfants, qu'est-ce que vous leur diriez ? C'est quoi l'amour pour un petit de 2-3 ans ?
C'est une bonne question. Je dirais que l'amour, ça a été son premier rapport au monde, je dirais ça, parce que ce qui me fascine, en psychologie, on a longtemps été freudien, et Freud dit que finalement la première pulsion de l'enfant, c'est de dévorer le monde, de le ramener à lui, et que c'est la culture qui va ouvrir l'enfant sur l'autre. En réalité, moi, quand je vois même mon petit bébé, là, de 3 mois, ce que je vois, c'est qu'au contraire, dans son regard, il ne dit pas « moi, moi, moi », il dit « toi, toi, toi ». Il est...
C'est un être de relation.
Ah ouais. Déjà, ça vraiment, on ne lui apprend pas. Alors après, c'est sûr que ce constituant, il va dire, mais c'est dans un deuxième temps. Je crois que l'enfant dit « toi, toi, toi », mais il rencontre à un moment donné un regard qui dit « mais toi, mais toi ». C'est-à-dire, il va, dans sa fascination pour le monde, eh bien, rencontrer un regard qui dit « oui, mais et toi », c'est-à-dire un regard qui va le regarder. Et là, il va prendre conscience de lui, et en effet, prenant conscience de lui, il va prendre consistance et il va dire « c'est mon papa, c'est ma chaise, c'est ma petite cuillère, que sais-je ». Et toujours le rappeler que le mouvement premier, c'était un mouvement d'appétit pour le monde, d'ouverture au monde, et que certes, il faut qu'il se constitue comme sujet et comme quelqu'un qui dit « c'est mon papa, c'est ma maison, c'est ma chambre, que sais-je ». Cette propriété qu'on prend de sa vie, elle n'a de sens que si elle est toujours indexé, articulé à cet art de donner qui est celui qui nous constitue en premier.
La vie est un art.
Martin Stephens, alors vous écrivez dans votre livre, donc on peut regarder les choses différemment, bien sûr, si on est un enfant, un adolescent et un adulte.
Pour moi, il y a un temps pour tout. Et en effet, il y a le temps, et c'est ce que je reproche à la pornographie, entre autres, mais j'essaye d'en analyser le mécanisme. Et je dis que finalement, l'œuvre de l'enfant, c'est un long travail d'intériorisation de ce qu'il vit. Au début, tout lui est extérieur, même son corps. Et puis, il a une présence, comme on dit en philosophie, extatique au monde. Il est tout entier ouverture sur le monde. Bon, et puis finalement, il intériorise ses émotions, il les exprime plus tout de suite, il fait plus de colère au supermarché. Il intériorise. Et qu'est-ce que vient faire la pornographie ? Elle vient rompre ce travail d'intériorisation. La pornographie, croit-on, c'est mettre à l'extérieur ce qui devrait rester intérieur, rendre public la relation charnelle. Et en réalité, pour moi, c'est laisser à l'extérieur quelque chose qui un jour devrait devenir intérieur. C'est-à-dire que toute la vie humaine, c'est de comprendre que il y a des choses qui se vivent à l'extérieur. Par exemple, quand je sors dans la rue, je vais à l'extérieur. Il y a des choses qui n'ont d'existence qu'intérieur. Je crois que si on met au jour, si on plonge dans la visibilité l'acte charnel, eh bien, en même temps, on le perd. On le perd dans ce qu'il a d'amour, dans ce qu'il a de l'étreinte, dans ce qu'il a d'intimement partagé. Il y a des choses comme, vous voyez, une amitié publique, ce n'est pas une amitié. L'amitié, elle est toujours partagée dans l'intimité, elle est toujours privée du monde extérieur. Et je crois qu'il faut respecter ces étapes-là. D'ailleurs, l'enfant fait un travail d'intériorisation. Une fois que c'est fait, l'adolescent va au monde et a un appétit extraordinaire du monde. Et l'adulte, c'est celui qui peut-être fait le partage entre ce qui ne peut que rester intérieur. On a parfois des relations pornographiques, même à notre propre vécu. On le raconte partout, que sais-je. Bon, non, il y a des choses qui doivent rester intimes. Il y a des choses qui ne se vivent qu'à deux ou trois. Et puis, il y a des choses voilà, qui se vivent publiquement. Mais l'adulte, c'est celui qui fait ce juste partage.
Et en même temps, qui doit garder une âme d'enfant ?
Et en même temps, qui doit garder une âme d'enfant. Pour moi, l'enfant, c'est l'adhésion spontanée aux choses. Quand on est enfant, on croit au Père Noël. L'adolescence, c'est le refus réfléchi des choses, on s'est fait avoir, on ne croit plus au Père Noël, et l'adulte va garder le meilleur des deux. Il va garder dans le refus réfléchi de l'adolescent ce qui est réfléchi, mais va garder dans l'adhésion spontanée de l'enfant ce qui est adhésion. Être un adulte, c'est cultiver cet esprit d'enfance, c'est-à-dire c'est être dans un rapport d'adhésion réfléchi au monde. C'est dire oui, mais c'est dire oui, non pas comme disait l'enfant un peu naïvement, ça n'est pas que être dans le non de l'adolescence, c'est dire oui, mais de façon réfléchie. C'est savoir le monde et ses violences, mais l'aimer quand même.
Je vous propose, Martin Stephens, de nous lire un peu un passage de votre livre pour qu'on voit un petit peu aussi le style. Alors moi, en tant que femme, je trouve que c'est un livre quand même qui s'adresse essentiellement aux hommes. C'est comme ça que je l'ai reçu, parce que, ou du moins, savoir que c'est un livre qui est écrit vraiment par un homme. On voit votre masculinité dans votre écriture, dans notre façon de dire, dans votre colère aussi. Et en même temps, une colère, mais aussi une grande douceur. Alors je vous propose de lire page 26.
Très bien. Il faudrait n'avoir jamais vu. S'il y a un bout de toi qui a échappé à la déforestation des âmes, fais-en ton refuge. S'il te reste un buisson un peu ardent, fais-en ton école. Si l'enfant en toi n'est pas encore mort, veille-le. Jusqu'à ce que le monde soit vaincu, jusqu'à ce que l'obsession soit brisée, jusqu'à ce que tu t'entendes dire « Talita cum », enfant, maintenant et pour toujours, lève-toi.
Merci, nous nous retrouvons la fois prochaine pour approfondir cette question si importante de l'amour vrai.